Je suis quelqu'un qui prépare beaucoup. D'abord parce que j'ai de l'appréhension, j'ai du stress. Souvent on me dit t'es naturel, c'est naturel chez toi, c'est pas vrai. Hein.
Bonjour à tous, je suis Rémi Senlis et vous écoutez La méthode des patrons. Aujourd'hui, le travail prend une place importante dans nos vies. Vous êtes sûrement débordé par les mails ou vous avez du mal à trouver l'équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Vous êtes peut-être étudiant et vous voulez mener au mieux votre future carrière. Grâce à ce podcast, vous allez recevoir les conseils des plus grands dirigeants français afin de gérer et faire avancer au mieux votre carrière. Aujourd'hui, je reçois Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des Centres Leclerc. Michel-Édouard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Pour compléter cette introduction, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre du tac au tac. Alors, votre lieu de naissance?
Je suis né à Landerneau, Finistère Nord.
Les études que vous avez faites?
Alors, j'ai fait des études classiques, mais plutôt littéraires, latin, grec. J'étais en pension, j'ai même fait un petit séminaire. On a jumelé avec une école de filles en terminale, donc la prêtrise m'a moins tenté. Je suis rentré après en sciences éco à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis j'ai fait des études de sciences politiques et de philo dans la même université.
Votre passion en dehors du travail?
J'adore la mer, la voile. J'ai été un bon marin. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je suis un marcheur, je suis pas au sens politique, mais... j'aime bien les GR, j'ai fait beaucoup de côtes et de chemins balisés, j'adore la marche.
Votre lieu de vacances?
Alors j'habite à côté de Concarneau, dans le Finistère Sud, donc mon lieu de vacances c'est chez moi quand j'ai le temps d'y aller.
Dernière question, la plus belle fiche de paye que vous ayez eue?
La plus belle fiche de paye, c'est quand j'ai quitté l'exécutif des Centres Leclerc, où j'ai des adhérents Leclerc qui ont été très généreux.
Alors maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va pouvoir parler communication. La première question que je me posais, vous avez expliqué que vous n'étiez pas forcément de nature très extravertie, vous êtes plutôt timide. Et vous avez dit aussi que ce n'était pas forcément naturel pour vous d'être un bon communicant, mais vous l'êtes devenu. Comment vous y êtes parvenu?
Ouais, je suis quelqu'un qui est plutôt solitaire et même si je donne tous les signes extérieurs de sociabilité, quelquefois même de pipolité, c'est un travail pour moi. Marin, randonneur, on est avec soi-même. À l'école, j'étais aussi, je travaillais tout seul. J'ai pas trop appris à travailler en équipe à l'école, ça m'a manqué d'ailleurs après. Mais donc, aller vers les autres, mais naturel, mais rester dans la communication, parler avec les autres, que ce soit au travail ou sortir en boîte, j'ai une sorte de fatigue, un refus préalable. Il a fallu que je travaille sur moi, sur ma respiration, que je travaille sur pour essayer d'enlever la peur panique de la communication. Et ça a été un travail de très longue durée.
Est-ce que vous avez un exemple d'il y a longtemps, quand c'était plus difficile pour aller vers les autres et être à l'aise pour communiquer?
Alors, j'ai appris par la radio, beaucoup, avec toute une génération de journalistes d'Europe 1. Là, on ne vous filmait pas à l'époque où j'ai commencé, à la fin des années 70, au début des années 80. Donc, il y avait à travailler l'élocution, le temps de la phrase, ne pas s'emballer. Il fallait aussi pouvoir accepter d'être interrompu, même au milieu d'une démonstration. Et donc ça, j'ai appris sans vidéo training, sans training particulier, mais parce que des journalistes ont été aussi patients, parce qu'ils ont été sympas. Et sur le terrain, quoi, j'ai réussi, à bien décortiquer mes phrases, parce que pour moi, la communication, c'est d'abord de l'argumentaire. C'est pas simplement exister. C'est rallier à la cause, faire adhérer, expliquer des arguments. Donc ça nécessite de la pédagogie, penser à celui qui écoute et pas simplement vouloir avoir raison. Parce que c'est ça qui tue aujourd'hui les débats en général.
Et justement, comment vous faites pour passer un message? Parce que souvent, quand vous allez dans des interviews, vous avez un objectif quand vous y allez, j'imagine. Comment on fait pour les personnes qui, par exemple, défendent des entreprises ou sont employées et veulent communiquer et faire adhérer à une idée? Comment on fait?
Alors, il n'y a pas de message sans public. Et les messages sont différents selon les publics. Donc si je m'adresse à l'Assemblée générale des centres Leclerc, il y a près d'un millier de personnes dans la salle, on se retrouve tous les mois et demi, je peux aller plus vite, parce que là je suis avec des connaisseurs, avec des sachants. Je sais ce qui imprime. Ouais. Quand je vais sur BFM, sur une matinale, si c'est un sujet comme l'inflation, pas de problème aussi. Ma vie a été celle d'un combat contre l'inflation. En tout cas, j'ai commencé à une époque où l'inflation était à 14-15%. Par contre, si ça part tout de suite parce qu'Apolline de Malherbe veut m'amener sur la politique, ou même dans BFM Business et que tout d'un coup, on veut me faire parler d'une loi, là, il faut que je me rappelle que le public est tantôt un public de chef d'entreprise pour BFM Business ou un public de cadre. Ou alors, on est le grand public, c'est une matinale. Et là, il faut penser que les personnes qui regardent, ils habillent leurs enfants en même temps, ils prennent leur petit déjeuner. Donc, il faut aller vite, construire. Donc, ça se prépare beaucoup avant. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas de gagner la bataille, c'est de convaincre la personne qui peut être passée devant son poste de télévision sans trop de concentration.
Ouais. Et comment vous faites pour préparer ces prises de parole, justement ?
Alors, je suis quelqu'un qui prépare beaucoup. D'abord parce que j'ai de l'appréhension, j'ai du stress. Souvent, on me dit, t'es naturel, c'est naturel chez toi. C'est pas vrai. Hein. Si je vais à une matinale, à la radio, à la télévision, je prépare pendant la semaine mes arguments. Je suis à l'ancienne, comme quand j'étais étudiant. Je fais des chemises de couleur selon les types de sujets. J'ai des classements, je stabilise au boss. Ouais. Même ce que j'ai été chercher sur le net, je l'imprime, je le stabilise au boss. Et jusqu'à la veille au soir, où j'étale tout avant de me coucher, je jette un dernier coup d'œil, j'ai les 30 types d'arguments ou de réponses que j'imagine pouvoir placer. Je vais me coucher, je me lève à 6 heures, en général 3 quarts d'heure ou 1 heure avant la matinale. Et là, je regarde un peu comme dans un observatoire. Ouais. Et par le jeu des couleurs, du stabilo boss, des chemises et tout ça, ça m'imprime. Et voilà.
Après, c'est très scolaire en fait.
C'est très scolaire, ouais. C'est très méthodique parce que c'est une discipline. Au fond, j'y vais comme si j'allais à un combat de judo ou de karaté, ce que j'ai pratiqué pendant 15 ans aussi. La préparation, elle est mentale et elle n'est pas spontanée. La préparation, c'est de l'accumulation de scénarisation.
D'accord.
Je vais me faire contrer. Là, c'est plus compliqué à raconter. Donc, je prépare énormément mes katas. Je prépare mes combats ou mes dires, mes cours. Enfin, vous voyez, tout n'est pas combat. Mais le lendemain, ça doit venir tout seul, fluide, tranquille. Ouais. C'est beaucoup de discipline et de préparation.
Vous êtes le défenseur des prix bas depuis des dizaines d'années. Comment on fait pour polir une image particulière ?
J'arrive pas à polir une image. C'est ce qui fait d'ailleurs que, étant commerçant, ayant ce statut qui n'est pas le plus valorisé dans la société française, j'assume l'ambivalence. J'assume que tout le monde va dire « Ouais, il fait ça comme, bah ouais. » En fait, la réalité, c'est que pendant que tous les gens commentent même en négatif sur la com, pendant ce temps-là, je bâtis un rapport avec le public, qui sont nos consommateurs, ou en tout cas les Français, et par la constance, par une forme de continuité dans le discours, le public sait, lui, si je dis la vérité ou pas la vérité. Ce n'est pas le critique ou le commentaire qui va faire la différence. Le fait d'aller beaucoup dans les médias, d'avoir à répondre à des questions tantôt agressives, tantôt plus complaisantes. C'est en fait l'auditeur qui finit par faire son tri. Et dans la durée, aujourd'hui, je bénéficie de cette constance.
Un autre aspect aussi, vous souriez très souvent. Est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est naturel ?
Alors, c'est une manière de positiver les choses. Tout le monde a fait cette réflexion et je suis comme ça depuis très longtemps. D'ailleurs, vous souriez pas mal aussi. Et je pense que c'est à la fois une protection, parce que quand on est émotif, on est plutôt très vite envahi, non pas simplement par l'émotion suscitée par ce qu'on dit, mais par l'appréhension de ce qui va advenir. Une manière de lutter contre le stress, une manière de se prémunir d'être trop envahi par ses émotions, c'est de positiver les choses, c'est de se dire te fracasse pas contre le rocher, de toute façon l'eau va à la mer.
Et est-ce que vous avez des conseils à donner justement pour les personnes qui souhaitent communiquer, par exemple porter un projet dans une entreprise ou alors même des entrepreneurs qui doivent défendre leur projet?
Je pense que chacun doit être lui-même, ça c'est un premier conseil. Après, on n'est jamais naturel. Quand on passe sur un plateau de télévision, en radio ou même quand on est dans un meeting, il y a toujours 600 watts dans la figure, il y a toujours plein de gens qui bougent autour. Donc c'est très important qu'il y ait une forme de concentration sur le public. Et ça, c'est vraiment très important. Et d'aller rechercher l'expression de la conviction dans le regard des autres ou dans l'attitude de ceux qui vous écoutent. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et j'ai été comme ça, qui s'écoutent. Ouais. Il ne faut pas s'écouter. Il faut se dire, tout ce que je dis doit pouvoir être audible, compréhensible par le public et que le public puisse s'approprier ce discours-là.
Donc, il faut penser en fait à la personne qui va recevoir cette communication.
Oui, pour moi, quelle que soit la qualité de l'émetteur, c'est toujours la capacité du récepteur d'entendre le message qui compte. C'est fondamental. Et en politique, par exemple, aujourd'hui, dans les débats, vous voyez tous ces hommes politiques qui viennent, souvent très talentueux, mais ils veulent tellement avoir raison qu'ils en oublient la capacité du public à suivre un argumentaire technique ou pas, est-ce qu'ils génèrent de l'affect ou pas. Et ça, c'est très important. Ça sert à rien d'être hyper compétent si l'auditoire ne suit pas.
Ouais. Vous parliez du stress précédemment, vous disiez que vous étiez assez sensible au stress. Comment vous faites pour le gérer au-delà de ce que vous avez dit précédemment?
Alors d'abord physiquement, le stress, ça se gère jamais. je vais vous dire, j'ai toujours le même stress depuis que je suis adolescent, depuis que j'étais à l'école avec d'autres. Et d'abord c'est des techniques de respiration. Voilà. Du fait que vous me posiez la question, je me calme. Ensuite, c'est une préparation physique. Moi, je fais pas du sport à l'excès, mais j'en fais tout le temps. Je marche, je fais un peu d'abdos, je fais du rameur, je vais en salle. En Bretagne, 3 jours par semaine, je longe la côte, je fais du vélo, je m'oblige à ne pas prendre de voiture pour aller chercher le pain, pour aller à la plage ou... et quand mes amis viennent à la maison, et j'ai beaucoup d'amis, on ne reste pas à table. Je les emmène dans la forêt, je les emmène marcher. C'est une manière de maîtriser ou d'essayer de maîtriser, au moins pour un temps, le stress sur le corps. Après, je crois quand même que c'est la connaissance des dossiers qui fait qu'on peut passer dans la tempête, quoi.
Ouais. C'est ça le point principal qui fait qu'on est finalement plus à l'aise quand même quand on va défendre un argumentaire?
Ouais, il y a des personnes qui naturellement sont charismatiques, qui naturellement ont l'air compétentes, sont brillantes. Il y a des personnes qui sont brillantes. Ouais. Moi, je ne sais pas ça de moi. Quand j'étais à côté de mon père, tout le monde voyait mon père. C'est très étonnant, mais c'est une sorte de Lino Ventura, de Robert Mitchum de son époque. Quel que soit le groupe, mon père rayonnait, on le voyait. Il était très charismatique. Moi, quand j'étais à la fac ou dans une assemblée générale, je sais que les regards ne viennent pas vers moi. Et donc, la manière de s'imposer quand d'autres sont brillants, eh bien, c'est de travailler. C'est d'accrocher un regard par une idée, par un son, voilà, comme j'essaye de vous répondre.
On va parler organisation maintenant. Comment organisez-vous vos journées, vos semaines, voire davantage?
Moitié de la semaine à partir de Paris, moitié de la semaine en Bretagne ou en vacances ailleurs. Et à partir de Paris, je suis d'abord à disposition des membres de la coopérative. Donc là, c'est leur agenda qui fait le mien. C'est aussi, quand je vais en province, leur agenda qui fait le mien. Je vais inaugurer des centres Leclerc, je vais dans les coopératives régionales. Là, je suis à leur disposition. Donc je dirais que je ne maîtrise pas mon agenda des 3 premiers jours de la semaine. En revanche, quand je suis en Bretagne, sauf les gens qui viennent me visiter, il y en a beaucoup, je me donne le temps de lire beaucoup, de lire la presse, de lire sur Internet, d'aller chercher mes informations professionnelles, les informations générales. Et puis, je fais du sport. Je retrouve une éthique un physique d'enfer, quoi.
Et vous n'arrivez pas justement à voir ça à Paris quand vous y êtes ?
Quand je suis à Paris, c'est très difficile pour moi d'organiser ma vie parce que je suis vraiment dans cette coopérative à la disposition de ses membres. Ouais.
Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte de pouvoir être à la fois en Bretagne et à la fois à Paris ?
Paris, c'est trépidant. Paris, il y a tout. Tout le monde vient à Paris. Culture, travail. C'est exaltant. On se rend plus compte quand on est parisien à Paris, mais c'est très exaltant. On peut être au parfum de tout, à la fois sur le plan des loisirs comme sur le plan professionnel. Mais dès que je reviens en Bretagne et que je prends du recul, eh bien évidemment, je pondère un petit peu tout ça et je reste sur l'essentiel et je cultive l'essentiel. Je vais rechercher de l'information sur ce qu'on m'a dit à Paris. Je travaille aussi les langues un peu, j'ai plus de recul. Et au fond, il n'y a personne là pour me dicter mon timing. Je peux très bien prendre mon téléphone et aller marcher sur la plage ou sur les sentiers. Là, je maîtrise mon organisation.
Vous êtes un patron qui, j'imagine, vous êtes très sollicité. Comment vous gérez les mails, les SMS, toutes les sollicitations que vous pouvez avoir ?
D'abord, je ne fais pas de coupure. C'est trop compliqué de s'y remettre quand on a fait une grosse coupure. Moi, ça me plaît quand même un minimum de stress de l'activité, mais bien réparti sur l'ensemble de la semaine. Donc, je regarde mes mails, je regarde les informations, mais toujours un petit peu et toujours tout le temps. J'ai plusieurs canaux d'information. Les mails, bien sûr, mais tout le monde m'envoie en copie les mails. Donc là, j'ai un collaborateur qui me met des petits drapeaux verts, des petits drapeaux oranges et des petits drapeaux rouges selon l'urgence à les lire ou pas les lire. Donc j'ai une sorte de relais qui reclasse et qui pondère. Après, sur les réseaux sociaux ou sur les messageries, je traite tout ça en verticalité, messagerie WhatsApp, je dois en avoir, 30 ou 40, messagerie Telegram, je les décline. Je les décline et je les regarde quand je suis dans le taxi, ouais, ou dans le transport, dans le train. Et j'y réponds d'un point fixe parce que j'aime bien être précis. Et puis, je suis un homme de ma génération, donc je n'appuie qu'avec un pouce sur mon mobile. Par contre, je ne me trimballe pas avec ordinateur, ouais, tablette et mobile. Je prends que mon mobile. Je n'ai pas d'ordinateur. Et d'ailleurs, sur mon bureau, il n'y a pas d'ordinateur. Tout doit passer par mon mobile.
Vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes donc le président du comité stratégique des centres Leclerc. Vous êtes aussi au conseil d'administration de l'école Neoma, une école de commerce. Membre du conseil d'administration de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Comment vous faites, et justement vous êtes passionné par l'art, par la BD, ouais, comment vous faites pour continuer à cultiver cette passion pour l'art et pour la BD ?
La recette, c'est j'arrête pas. Donc j'accumule des savoirs, enfin j'essaye. Et donc cette capitalisation de 45 ans de vie professionnelle, elle me sert aujourd'hui. Tout n'est pas déclassé, on a beau être dans un monde de rupture, le digital a beau innover, l'intelligence artificielle, ça ne remet pas en cause les acquis. Ça va juste plus vite, mais on va d'autant plus vite aussi qu'on a déjà toutes les bases. Donc je ne dis pas que je passe facilement d'un sujet à l'autre, mais j'ai une méthodologie, j'ai une technique qui n'est pas lourde pour moi, parce que c'est maintenant, comme on dit, j'ai un palais des connaissances dans la tête qui a été structuré depuis que j'ai été étudiant de la même manière. En tout cas, moi, je suis toujours en mode projet. C'est peut-être la vraie recette, c'est que je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui avait réussi. Même enfant, on me disait « sois un adulte ». En fait, je n'ai jamais voulu être un adulte. Je suis toujours resté un adolescent en mode projet avec mes rêves. Et je suis porté par ça.
Alors, c'est maintenant le moment où on fait un petit retour en arrière. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est votre père qui a créé donc les centres Leclerc en 1949. Vous avez pris sa suite en 2006 ou 2007, c'est ça dans, 2006, il me semble. Quel est le meilleur conseil qui vous est donné quand vous étiez plus jeune?
Le meilleur conseil que mon père, rétrospectivement, m'a dit avoir donné, c'est celui de ne pas m'avoir donné de conseil. Il n'a jamais eu un rapport paternel avec moi au travail. Et il n'a jamais eu un rapport dominant. Ayant créé un groupement d'indépendants, de commerçants indépendants, de distributeurs indépendants, il a tenu à ce que ses enfants choisissent leur destin et la manière d'y arriver. Et donc, nous n'avons jamais eu de pression, ni pour rentrer dans les centres Leclerc, mes sœurs et moi, ni même pour exercer nos rôles futurs. On n'a jamais eu de pression pour l'exercer selon sa pensée et autres. D'abord, c'était assez facilité par le fait que mon père, lui, travaillait beaucoup à partir de Landerneau et ne restait pas sur Paris. Donc, j'étais plutôt son correspondant sur Paris. Donc, on ne se marchait pas sur les pieds. Ouais. Et ensuite, je pense qu'à peu près sur tous les sujets, on pouvait se contredire ou être en contradiction. Mais, et il y a eu ces débats et ces contradictions, mais il ne m'a pas imposé ses solutions comme père. Il a toujours cherché à me convaincre. Mais ça, c'est moi qui dis ça a posteriori, mais lui a toujours voulu me faire comprendre que, à défaut d'être maître dans son destin, c'est chacun fait sa route. Et donc, mon père ne m'a jamais donné des conseils.
Et vous, peut-être, alors, quel conseil vous seriez-vous donné quand vous étiez plus jeune et que vous étiez étudiant, par exemple, en sciences économiques?
Je pense que l'erreur, par exemple, que j'ai faite, s'agissant d'animer un groupement d'indépendants, c'est plutôt des erreurs de méthode. Et je trouve que c'est important de les dire, parce qu'on est dans une société où il faut de l'ego sur les réseaux sociaux, sans être narcissique, il faut quand même dire sa parole, dire ce que l'on est, pourquoi on pense ça, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas échanger si on n'a pas d'abord affirmé sa position. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir raison. Ce qui est important, ce n'est pas d'être le meilleur. Ce qui est important, ce n'est pas... Ça nous tire, nous, tout seul. Mais dans la relation sociale, ce qui est important, c'est... et surtout si on est dans l'action, c'est que le projet soit fait. Et donc, souvent, et la plupart du temps, c'est avec les autres. Donc l'important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est que les autres soient convaincus de la qualité du projet. Et donc, il faut avoir aussi l'abnégation, et quelquefois même accepter de perdre la propriété de l'idée pour que celui qui va être amené à faire le projet puisse dire en rentrant chez lui, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est très important. Les gens qui sont en politique comme dans l'entreprise, trop préoccupés de leur propre image, de leur propre position sociale ou même d'avoir raison, ces gens ne créent pas forcément les conditions de l'action. Dans l'action, il faut avoir l'abnégation, surtout si on a un travail d'équipe, il faut avoir l'abnégation de ne pas porter l'entièreté du projet et donc de s'attribuer la réussite. Ça, j'ai mis longtemps avant de le comprendre.
Depuis le début de votre carrière, vous êtes aussi très exposé, vous avez beaucoup de responsabilités. Quel conseil, avec toute l'expérience que vous avez accumulée, vous donneriez justement aux jeunes qui débutent, qui sont peut-être étudiants à Neoma, là où vous êtes au conseil d'administration ou ailleurs dans d'autres écoles?
Outre le travail, l'acquisition de compétences, le fait aussi de ne pas rester monospécialiste et de savoir diversifier la palette des prestations que l'on peut réaliser, c'est très important de travailler en équipe. Moi, j'étais trop solitaire et quand bien même ça me permettait aussi de travailler beaucoup, d'accumuler des connaissances, de lire beaucoup pendant que je ne jouais pas au foot, ou que je ne partageais pas des moments plaisir avec d'autres, en fait, ça m'a aussi limité, puisqu'après, j'ai dû réapprendre la relation sociale. Et donc... il faut vraiment apprendre à faire des choses par soi-même, mais beaucoup le faire en équipe aussi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grandes choses qu'on pourra faire tout. tout seul. Ce n'est pas très français ce que je dis, mais...
Et avant, c'était peut-être le cas, c'était plus le cas de pouvoir faire réaliser de grands projets seuls ?
Je ne sais pas. Je ne suis pas analyste de mon passé, mais il me semble qu'aujourd'hui, de par l'ampleur des investissements qu'il faut réaliser pour être entendu, pour être compétent, ou pour pouvoir produire des effets économiques, sociaux, politiques, je pense qu'on ne peut pas être tout seul. Quel que soit votre charisme, la qualité de votre expertise, vous ne pouvez pas soulever des montagnes sans avoir des collègues, sans avoir des collaborateurs ou des homologues.
Alors pour finir, est-ce qu'il y a un livre qui vous a aidé dans votre carrière et qui vous a marqué ?
Je dois tout à la littérature. La littérature, c'est mieux que des études de cas. C'est le creuset le plus riche de personnalités, d'aventures, d'actions, etc. Et parmi ces livres, il y a Moby Dick de Melville. Je ne sais pas si vous vous rappelez le récit. C'est un capitaine qui entraîne tout son équipage à la poursuite d'une obsession qui est la baleine blanche. Je crois qu'on a tous des baleines blanches. Et donc, de la manière dont on va aller la chercher, dans la manière dont on entraîne les autres, on se donne les conditions de la réussite ou de la paix, d'une qualité de vie. Dans ce livre, il y a vraiment tout ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Est-ce qu'il y a une phrase ou une citation qui vous guide dans votre parcours ?
Oui, et pourtant je ne m'attendais pas à ce que vous posiez cette question. Oui. Alors la citation, je ne sais pas la dire littéralement, mais c'est dans Les Conquérants de Malraux, où un des révolutionnaires dit « Ce qui compte, ce n'est pas d'être roi, mais de bâtir un royaume. Ce qui compte, c'est le projet, ce n'est pas être soi. »
Et une ultime question, c'est quoi un patron pour vous, Michel-Édouard Leclerc ?
Je ne sais pas ce qu'est un patron. Ce n'est pas un terme que j'utilise. Il y a des entrepreneurs, il y a des réalisateurs, des producteurs. De toute façon, ce ne sont que des fonctions sociales qui ne disent pas la personnalité. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas patrons, mais qui ont des envies entrepreneuriales et qui en ont les capacités, même s'ils ne peuvent pas l'exercer. Et il y a des patrons qui sont patrons parce que des actionnaires les ont désignés, mais qui ne font pas forcément des bons entrepreneurs.
Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc.
Merci à vous. Et puis, j'espère que vous aurez... Je vous souhaite bonne chance pour votre entreprise.
Merci d'avoir écouté La Méthode des Patrons. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le partager. Et à nous faire aussi vos retours également sur les réseaux sociaux. À très vite.